Bonjour chers amis et bienvenue pour la méditation de ce jour. Je vous propose de faire une lecture dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15, où nous lirons les versets 1 à 8. Si vous avez une Bible tout près, ouvrez-la et lisez ensemble avec moi. Il s'agit ici des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Il y a des années, nous avons eu ici la visite de Roy Gustafson, un co-évangéliste de Billy Graham. Il a raconté l'histoire d'un garçon qui habitait la campagne américaine et qui a passé quelques jours chez des amis dans la ville de New York. Un jour, ils lui ont fait visiter la célèbre 5e avenue, l'équivalent des Champs-Élysées de Paris. À son retour, ses hôtes lui ont demandé ses impressions, sur quoi il a répondu « Je n'ai jamais vu autant de choses dont je n'ai pas besoin. Mais il existe au moins 3 choses dont nous avons tous besoin. Nous avons besoin de la foi en Dieu, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Nous avons besoin du sang de Jésus, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Et nous avons besoin du Seigneur Jésus car il a déclaré « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Ceci est le message central de notre texte. L'action de notre passage se déroule soit dans la chambre haute, à la fin du repas pascal, soit en route vers Gethsémané. Il s'agit ici du discours d'adieu de notre Seigneur Jésus. Ici, il aborde plusieurs sujets, dont la venue du Consolateur, le nouveau commandement de nous aimer les uns les autres, ainsi que le vrai esprit de service et la vraie humilité qui nous font laver les pieds les uns aux autres. Nous avons ici un enseignement extrêmement riche sur le vrai cep et les sarments. C'est un enseignement que nous devons tous écouter attentivement et assimiler dans notre vie spirituelle. Le Seigneur Jésus débute son enseignement sur le vrai cep par un « Je suis ». Nous devons considérer cette déclaration à la lumière du but dans lequel l'Évangile selon Jean a été écrit. Et pour cela, nous devons lire le chapitre 20, les versets 30 et 31 qui déclarent « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. » Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean souligne clairement la divinité de Jésus. L'expression « je suis » abonde dans Jean. En voici quelques exemples. « Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » L'une des déclarations les plus puissantes se trouve au chapitre 8 et au verset 58, où Jésus déclare « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Grammaticalement parlant, cela ne tient pas la route. On dirait plutôt « Avant qu'Abraham fût, j'étais ». Mais dans ce contexte, Jésus ne se soucie pas de la grammaire, mais de la vérité. En disant « Avant qu'Abraham fût, je suis », il fait clairement allusion à sa divinité. Il se réfère à ce qui s'est passé près du buisson ardent, lorsque l'Éternel a dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous ». Il y a encore bien d'autres passages où Jésus emploie l'expression « je suis ». Il est vraiment le grand « je suis » qui s'est manifesté à Moïse près du buisson ardent. Maintenant Jésus dit « je suis le vrai cep ». Qu'est-ce qu'il veut dire par « vrai cep » ? C'est une expression extrêmement riche et intéressante. Jésus fait clairement allusion à Ésaïe chapitre 5, où nous trouvons le cantique sur la vigne. « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. » Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Cette vigne, c'est Israël. Le problème, c'est que cette vigne n'a que rarement répondu aux attentes et aux exigences de l'Éternel. C'est le verset 7 qui nous le confirme. « La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Mais Jésus, en tant que second homme venu du ciel, est le vrai cep. Parce qu'il a pleinement répondu aux attentes de son Père, il a pu dire « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » À deux reprises, le Père a publiquement complimenté son Fils en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Nous aussi, nous devrions nous efforcer de vivre de telle façon à toujours faire la joie du Père, à lui être agréable, à lui plaire, comme l'a si bien dit Bob Mumford, un célèbre enseignant de la parole de Dieu, « Je veux être un father pleaser », c'est-à-dire quelqu'un qui plaît au Père. Voici un poème que j'ai trouvé quelque part dans un livre et qui exprime le même désir. « Seigneur, laisse-moi te faire plaisir, juste cela. » Si je peux voir ton sourire sur ma vie, tout va bien pour moi. Laisse-moi te faire plaisir. Nous trouvons dans notre texte trois métaphores. Le cep, qui est Jésus-Christ, le vigneron, qui est le Père, et les sarments. C'est le verset 5 qui nous dit qui sont les sarments. Ce sont les croyants, les disciples. L'image du cep et des sarments souligne en premier lieu la relation intime, précieuse, qui existe entre Jésus et ses disciples. Nous en Jésus, lui en nous. Sommes-nous conscients de la portée de ce fait glorieux? Par nature, nous étions en Adam, et en conséquence les participants de toutes les suites négatives de la chute et de la nature d'Adam. Mais maintenant nous sommes en Christ, et donc logiquement les participants de toutes les conséquences positives et glorieuses de ce fait. Cette merveilleuse relation et cette intimité sont donc exprimées à présent à travers la métaphore du cep et des sarments. Nous devons savoir que chaque métaphore souligne une certaine vérité. Ici, la vie et la sève du cep coulent dans le sarment, autrement dit, la vie de Jésus. Sa vie de résurrection, sa vie de Fils de Dieu, sa vie victorieuse est en nous, coule en nous. Nous sommes participants de sa vie, de sa victoire, de sa puissance. C'est un privilège formidable. Mais attention, chaque privilège, chaque avantage apporte aussi des responsabilités. Le divin vigneron s'attend à ce que les sarments portent du fruit. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des parasites ou juste des profiteurs de sa glorieuse vie. L'expression « fruit » est mentionnée 6 fois dans notre passage, ce qui montre quelque chose de son importance. De quel fruit le Seigneur parle-t-il ici? La Bible mentionne tout un éventail de fruits que voici quelques-uns. L'obéissance à la parole de Dieu. Le fruit digne de repentance. Le fruit de l'Esprit. Le fruit de nos lèvres, c'est-à-dire nos louanges. Le fruit de la justice dont parle Philippiens. Le fruit sous forme d'âme que nous gagnons pour le Seigneur. Ou encore le fruit sous forme d'une vie pieuse et qui plaît à Dieu. Et puis nous avons encore la sainteté Il est intéressant de lire ce que Paul écrit aux Romains par rapport à ce fruit de sainteté. Au chapitre 6, il déclare « Quel fruit portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. » Selon le verset 2, chaque sarment a deux possibilités. Porter du fruit ou ne pas porter du fruit. La question c'est de quelle catégorie fais-tu partie? Y a-t-il du fruit dans ta vie? Toutefois, nous devons retenir un fait non négligeable. Que nous portions du fruit ou non, le Seigneur intervient dans notre vie et il utilise son couteau ou ses ciseaux. Voici les deux possibilités. Soit le sarment est retranché, faute de porter du fruit, soit le sarment est émondé pour porter encore davantage de fruits. Qu'en est-il de toi? Y a-t-il des évidences de fruits dans ta vie? Peut-on te considérer comme un authentique disciple? Je t'invite à méditer sur ce passage. Mets-le en pratique et demande au Seigneur de t'aider à porter toujours plus de fruits, à la gloire du Père et dans le but d'être un vrai disciple. Prions ensemble. Je te remercie, Seigneur, de la façon dont nous sommes attachés à toi. Merci pour ta vie divine qui coule en nous et qui nous permet de porter du fruit, plus de fruits, beaucoup de fruits, pour ta gloire. Aide-nous tous à être des sarments productifs et que nous ne soyons pas découragés lorsque tu nous émondes, car tu le fais pour notre propre bien. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen et Amen.